Et aujourd'hui, Frédéric Taddeï a décidé de vous faire revivre sa balade avec l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, Riyad Satouf. Alors on lui doit l'Arabe du futur, dans lequel il raconte son enfance en Libye et en Syrie. Mais il a aussi écrit, entre autres, Les cahiers d'Esther, le journal d'une petite fille de 10-12 ans. Riyad Satouf connaît un grand succès en France, mais aussi aux États-Unis et jusqu'en Corée du Sud. Et pourtant, cette année, il avait montré à Frédéric qu'il était resté très simple. La preuve, il prend le métro, comme tout le monde.
Frédéric Taddeï, en balade avec Riyad Satouf sur Europe 1.
Bonjour Riyad, en métro avec un vélo.
Je le prends des fois, en fait c'est un tout petit vélo qui est pliable.
Ah oui.
Et donc il est assez dangereux mais permet d'aller partout.
Je me souviens quand j'étais petit, je prenais le métro et il n'y avait pas toutes ces voix qui résonnaient dans les stations. Maintenant en plus avec tous les touristes, ils parlent dans toutes les langues.
Alors non seulement ils parlent dans toutes les langues, c'est vrai, mais en plus quand on était petit, il n'y avait pas non plus ces portes anti-suicide.
Oui, qu'il y a toute, l'empêche effectivement, là, un métro arrive, on n'aurait pas pu se jeter même si on en avait voulu. Parce qu'il y a
on peut passer par-dessus quand même.
Ouais.
Là je vais me mettre discrètement dans un coin pour qu'on ne me regarde pas avec mon micro.
Vous avez grandi en Libye, en Syrie, puis en Bretagne. Vous vous souvenez la première fois que vous avez pris le métro à Paris ?
Oui, tout à fait. Et j'étais tout petit, en fait. Je devais avoir 3 ans, 2-3 ans. Et comme tous les enfants, j'étais ultra fasciné par cet engin. En fait, je m'en rappelle, et parfois, quand je le regarde encore aujourd'hui, je revois ce que j'ai vu à cette époque-là. La première chose qui m'avait marqué, c'est que j'avais l'impression que les deux phares étaient des yeux. Et on le voyait arriver très loin dans le tunnel. Et pour moi, c'était comme des yeux d'un serpent ou quelque chose. Je croyais que c'était une créature vivante.
Ouais.
Et c'est un endroit très impressionnant pour les enfants. Et
moi, quand j'étais petit, parce que je suis plus âgé que vous, en plus, il y avait encore les métros rouges et verts. Rouge pour les premières classes, vert pour les secondes. Ah oui, vous avez connu ça, vous ?
Moi, j'ai connu les bus avec la passerelle arrière où on pouvait regarder le paysage.
Et moi, à chaque fois, j'ai l'impression que c'était la Seconde Guerre mondiale qui recommençait à chaque fois que je voyais ces bus et ces métros-là.
Attention, des pickpockets peuvent être présents à bord.
Beware of pickpockets.
Ça vous fait 40 ans maintenant.
Et oui.
À 40 ans, on devient ce que l'on est normalement. C'est Charles Péguy qui disait ça. Je crois qu'il n'est même pas arrivé jusqu'à 40 ans d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai, c'est peut-être vrai. C'est vrai que c'est impressionnant quand même d'avoir 40 ans. Je ne pensais pas que ce serait... Parce qu'on n'est plus du tout jeune en fait.
Non. Et c'est un problème pour quelqu'un comme vous qui passe son temps à raconter soit son enfance, soit l'enfance des autres. Vous en avez fait une profession depuis retour au collège. La vie secrète des jeunes, les cahiers d'Esther, l'Arabe du futur, une plongée permanente, une immersion dans l'enfance.
Non, mais c'est vrai, et je me suis rendu compte l'autre jour que quand j'étais en train de commencer à faire des bandes dessinées, quand mes premiers livres sont sortis, en fait, les années qui me séparaient de ma vie en Syrie, c'était bien moins nombreuses que les années qui me séparent maintenant du début où j'ai commencé à faire de la BD. Donc j'ai beaucoup plus vécu en tant qu'auteur de BD que évidemment en tant que gamin, etc. Enfin, le temps entre enfance et âge adulte est en train de se...
Mais qu'est-ce qui ne vous intéresse pas dans le monde des adultes, des gens, des quadragénaires, des gens de 40 ans? Qu'est-ce qui fait que vous êtes constamment tenté de revenir à l'enfance ou à l'adolescence?
Je crois que sans doute parce que j'ai beaucoup de souvenirs extrêmement précis en fait de ma propre enfance et de ma propre adolescence, et je tourne autour parce que j'ai pas l'impression d'avoir quitté ce moment-là. C'est un...
Les garçons que vous détestiez à l'époque, vous les détestez encore ?
Je les déteste encore aujourd'hui, même quand ils ont 12 ans, ce qui est vraiment pathétique parce que j'en veux à des gamins de 12 ans alors que...
ceux qui vous tapaient dessus, ceux qui...
Mais non, mais c'est vrai quand même, j'exagère un peu parce que je me suis quand même vachement pacifié, je crois.
Ouais.
J'ai plus les mêmes. Je crois qu'en effet, je sais que pendant très longtemps, j'étais extrêmement. J'en voulais à une sorte de création générale, la nature, etc. De ne pas avoir fait de moi un Schwarzenegger naturel. Et en fait, je pense que maintenant, j'ai appris un peu à m'accepter comme je suis quand même.
Si vous prenez souvent le métro, jamais de problème dans le métro ?
De temps en temps, il y a des problèmes, je voulais dire, des gens qui m'attaquent.
Ouais. C'est comme ça qu'on voit le métro souvent. On imagine que c'est un repère de loubard.
Alors moi, j'avoue que pendant très longtemps, j'ai pris le métro tous les jours. Et je faisais à cette époque-là La vie secrète des jeunes qui se passait très souvent dans le métro. C'était des scènes de BD rapportées qui se passaient dans le métro. Et ça me déprimait profondément, en fait, de raconter ce que je voyais. Là, j'ai vu qu'il y avait eu une augmentation de 84% de sans domicile fixe à Paris en 10 ans. Et en fait, je l'avais vraiment ressenti, moi, en faisant ma bande dessinée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de prendre le métro et je me suis acheté un vélo. Et c'est pour ça que j'ai un vélo, ça me déprimait trop.
Mais de temps en temps, il faut reprendre le métro avec son vélo pour aller plus vite.
Je reprends le métro de temps en temps, ouais. Mais quand même, ça s'est vachement amélioré, je trouve, le métro. Maintenant, les rames ont été changées depuis quelques années. Il n'y a plus les intervagons. Là, par exemple, la ligne 1 où on est, c'est moderne quand même. Donc, c'est presque climatisé.
Ben, on descend là, station Hôtel de Ville. On va au musée de la chasse et de la nature.
D'accord, hein, super.
Ouais. Ben, on s'y retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Riyad Satouf sur Europe 1.
Cette année, Frédéric Taddeï s'était baladé avec Riyad Satouf et l'artiste l'avait emmené dans un musée qu'il aime beaucoup et vous allez vite savoir pourquoi.
Nous voilà donc avec Riyad Satouf au musée de la chasse et de la nature, 62 rue des Archives, dans le Marais, à Paris, un très bel hôtel particulier du XVIIIe siècle. C'est un musée privé, vous y avez vos petites habitudes?
Non, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que déjà il est magnifique. Et ensuite, c'est vrai que je n'aime pas du tout les chasseurs modernes. Et je trouve que en fait, ce qu'on ressent au musée de la chasse, il y a quelque chose de... C'est la première fois où on m'a proposé de venir là. J'avoue que j'étais pas super partant, pas parce que justement j'aime bien les animaux vivants et je.
Là, ils sont plutôt empaillés. On voit un magnifique cerf, ici un loup.
Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un musée de la chasse, mais de la chasse antique, c'est-à-dire dans le passé. Donc c'est tout le. Et je trouve que le lien qui existe entre les hommes et les animaux et la façon dont ils étaient obligés de les tuer pour s'en nourrir ou pour ça explose au visage quand on est dans cet endroit.
Vous avez des animaux chez vous?
Non.
Vous en dessinez rarement d'ailleurs les animaux. Ben, parce que vous savez pas.
Non, mais c'est vrai que déjà les animaux de compagnie, je pourrais pas en avoir parce que j'ai trop peur qu'ils meurent et de m'y attacher trop et
Pareil avec les enfants ou...
Oui, mais alors, les enfants, c'est ça, mais j'espère qu'ils me survivent. Donc, j'ai moins cette peur. Mais par exemple, là, il y a une œuvre qui est de l'autre côté, qui est ici, qui est une espèce de chouette étrange. Et je trouve, voilà, et au plafond, il y a ça aussi. En fait, je crois que le symbole... Enfin, il y a des symboles étranges dans ce musée qui sont très stimulants pour le...
Pour le dessinateur
ouais, ou pour... Je sais pas, il y a un... On sent un lien étrange qui unit
l'homme à l'animal.
Ouais, et que je ne soupçonnais pas. Moi, je trouve que c'est un lieu.
Je crois que c'est une œuvre de Jeanne Fabre, là, qu'on a au-dessus de notre tête, donc une chouette, et ensuite, il y a tout le plafond qui est fait. Si je me souviens bien, c'est Jeanne Fabre.
Et alors, il y a toute une salle où il y a des fusils, etc. Et c'est vrai que c'est quand même...
Des arbalètes.
Des choses qui ont été faites. Là, celle-là, là, par exemple. C'est très impressionnant. C'est le moment où la chasse a commencé à devenir problématique. Où ça devenait un sport et pas un...
Vous voulez dire, dès l'instant où on s'est mis à tirer de loin sur l'animal, c'était plus juste. Mais vous savez que les gangsters disaient la même chose. Au début du XXe siècle, à Marseille, on estimait que celui qui ne se battait pas au couteau était un lâche. Si vous tuiez quelqu'un au revolver, vous n'étiez pas digne d'appartenir au milieu.
Et voilà, là, il y a des arbalètes et des sortes de petits... Ça, c'est
sûr, quand il fallait mouliner pendant 10 minutes pour remonter le carreau,
oui.
Là, ça laissait une sacrée chance à l'animal.
Parce que c'est vrai que la chasse, c'est quand même relié à l'histoire de l'homme pour sa survie, en fait. Et donc, ce que j'aime bien ici aussi, c'est qu'on sent... Pas souvent quand on dit oui, l'homme a envahi la terre, détruit tout, etc. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même enfoui dans le cerveau des êtres humains le souvenir de milliards et de milliards de drames de l'humain avec la nature. C'est-à-dire, on oublie le nombre d'animaux sauvages qui ont mangé des enfants dans des familles, le nombre de gens qui ont été tués par des... En fait, l'homme étant...
Pas forcément les mieux placés pour survivre.
Il y a un truc très émouvant là-dedans, parce que finalement, l'être humain a détruit tous les autres animaux comme s'il était poussé par ce sentiment d'être pas au-dessus des autres, en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose de dramatique, et c'est très triste, mais en même temps, c'est touchant. On veut vraiment pas se faire manger par les lions, alors on va tous les exterminer jusqu'au...
Moi, je me souviens, quand j'étais petit, dans la bande dessinée, il y avait beaucoup d'animaux. Parfois même, les héros étaient des animaux. Et puis, quand les héros n'étaient pas des animaux, ils avaient toujours un animal.
C'est vrai que les côtés un peu Donald Duck ou Mickey Mouse, etc., c'est un peu...
Milou. Et tout ça.
Mais je pense que c'est aussi parce que peut-être la bande dessinée s'est éloignée du monde de l'enfance.
Ouais.
Et rien n'est plus fascinant pour un gamin que de lire, de voir dans une BD qu'il y a un petit animal, en fait. Et c'était, les dessinateurs le savaient très bien à l'époque.
Moi, quand j'étais tout petit, je m'identifiais à Milou. Ensuite, adolescent, je m'identifiais à Tintin. Ensuite, je me suis identifié au capitaine Haddock. Et quand je serai vieux, au professeur Tournesol.
Professeur Tournesol.
On continue notre visite du musée de la chasse et de la nature en balade avec Riyad Satouf après une pause.
C'est toujours dans le Marais à Paris que Frédéric Tadié et Riyad Satouf continuent leur balade. Et en tant que dessinateur, Riyad Satouf avait emmené Frédéric dans un musée qui lui inspire beaucoup de choses.
Nous sommes toujours au musée de la chasse et de la nature, 62 rue des Archives, avec Riyad Satouf. C'est Riyad Satouf qui nous a proposé de partir en balade dans ce musée. Un musée qui vous rappelle tous les liens entre les êtres humains et les animaux.
Oui, et puis c'est surtout, je trouve, un musée qui ne donne pas envie de spécialement d'aimer les chasseurs.
Enfin, non, du
tout. C'est-à-dire que dans le nom, il y a le musée de la chasse, on croirait que c'est un musée à la gloire des chasseurs, mais c'est plus un musée sur ce qui unit les...
Là, par exemple, on est dans une salle où il y a surtout de la peinture et essentiellement des chasseurs à court, donc avec leurs chevaux et leurs chiens, les meutes de chiens. On ne voit pas les proies, d'ailleurs.
Non, mais il y a toute une progression, c'est-à-dire ça remonte à des... Je dis peut-être des bêtises, mais au Moyen-Âge, etc., on arrive au moment où, justement, où la chasse commençait à devenir vraiment quelque chose de sportif et de... La chasse à court, il y a quelque chose d'aristocrate, ça devient beaucoup... Enfin, le rapport de l'homme et de l'animal est très bien illustré dans cette...
Vous êtes pour interdire la chasse à court, vous ?
Ah oui, complètement, moi. Ah oui. Je suis pour interdire la chasse. Mais bon, je suis à la frontière de ne pas manger d'animaux.
Ah, vous êtes en train de basculer.
je bascule.
Oui, il y en a de plus en plus nombreux qui sont comme ça. Il faut dire, parfois, ça donne à réfléchir.
Non, mais c'est vrai que c'est...
Ça fait partie des nouvelles idées du 21e siècle, parmi celles qui se font les plus intéressantes.
Par exemple, l'idée de cloner de la viande pour la manger, oui. Il va bien falloir trouver des moyens pour survivre sans exploiter la nature. Et je trouve que dans ce musée, on ressent bien ce moment de bascule où c'est devenu trop facile pour les hommes, en fait.
Là, on est dans la partie où il y a essentiellement des chiens. Le parquet grince, je rappelle que c'est un hôtel du XVIIIe siècle.
Non, puis c'est vrai que c'est un endroit magnifique aussi, qui présente aussi des œuvres plus contemporaines.
Oui, il y a des expositions temporaires. En ce moment, ils exposent Country Life. Il y a Manet, il y a Degas. Devant nous, il y a un énorme ours blanc devant lequel les visiteurs se font prendre en photo. Évidemment, c'est un ours blanc paillé. Hein.
C'est très impressionnant.
C'est gigantesque, un ours blanc. Hein. Là-bas, il y a un guépard. Magnifique aussi. C'est la salle des trophées du musée de la chasse et de la nature.
J'ai toujours demandé s'il existait des...
Il y a beaucoup d'enfants.
Oui.
Aujourd'hui, c'est très mal vu, les animaux empaillés. Moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique. On en voit plein, là.
Moi, je me suis toujours demandé, existe... Mais c'est parce que j'ai vu Predator de... Je me suis toujours demandé s'il existait sur des planètes lointaines des musées où il y avait des êtres humains.
Comme ça,
empaillé. Avec des extraterrestres qui passent.
Et qui sortaient du mur, comme les trophées. Voilà. Là, il y a des antilopes, des taureaux, des cerfs, des impalas, des béliers, des bisons. C'est absolument magnifique. Mais bon, aujourd'hui.
C'est aussi terrifiant.
Oui, aujourd'hui, c'est un commerce qui n'a plus le droit de citer.
Je ne sais pas si vous aviez vu ces photos des crânes de bisons empilés. Par les Américains, quand ils voulaient priver les Indiens de leur nourriture, ils ont tué des bisons par millions et millions. Et
ils les laissaient crever, pourrir. Ouais. Pourrir. Ouais. Ben, je vous propose justement d'écouter un morceau de Leila McKella. C'est une chanteuse de folk américaine de parents haïtiens. Ce morceau s'intitule « A Day for the Hunter, a Day for the Prey ». Un jour pour le chasseur, un jour pour la proie. C'est d'après un proverbe haïtien.
If I go away, I want day for the hunter, day for the prey.
C'était A Day for the Hunter, A Day for the Prey, un jour pour le chasseur, un jour pour la proie, par Leila Makela, une artiste que j'avais reçue d'ailleurs sur Europe 1 pour la sortie de ce disque. Où est-ce que vous dessinez, vous, Riyad Satouf? Vous dessinez dans les musées? Est-ce que vous faites de la copie, comme souvent on voit en faire au musée du Louvre, par exemple?
Eh ben non, jamais. Non, non, j'emporte jamais de croquis avec moi et je dessine jamais à l'extérieur. Parce que déjà, j'ai un peu honte que les gens me regardent dessiner ou que ça fait un mec qui essaie de faire son intéressant, je trouve.
Est-ce qu'il y a des moments où vous n'avez pas honte?
Si, j'ai toujours honte, mais oui, c'est ça. Mais non, quand je suis chez moi et que dans mon petit bureau et que je dessine, là, j'ai pas trop honte.
Mais maintenant, vous êtes à des auteurs, je le disais au début de cette émission, à des auteurs français les plus lus dans le monde. Vous continuez d'avoir honte de ne pas être fier de vous?
Ah ouais, non, non, bien sûr. Mais dessiner dans un lieu public comme ça, ça fait vraiment type qui essaie de montrer aux autres, qui dessine. Enfin, je me sentirais très, très mal. Ou alors, si j'étais tout seul, j'essaierais de dessiner, en effet, mais je serais déçu du dessin que je produirais. J'ai toujours été assez mauvais en dessin, d'après nature. Mais c'est vrai que souvent la recherche d'un dessin réaliste peut-être peut éloigner la présence de l'humour. Et comme j'essaie de mettre de l'humour dans mes dessins, je m'éloigne souvent du réalisme.
Europe 1. Et ben nous, on va s'éloigner du musée de la chasse et de la nature. On continue notre balade avec Riyad Satouf. On se retrouve juste après une parenthèse.
Frédéric Taddeï, en balade avec Riyad Satouf sur Europe 1.
En septembre dernier, Riyad Satouf a sorti le 4e volume de L'Arabe du Futur, sa bande dessinée phare. À cette occasion, il s'était donc promené dans les rues de Paris avec Frédéric Taddeï, et plus particulièrement dans le 3e arrondissement.
Nous sommes rue Pastourelle, du nom de Roger Pastourelle, propriétaire en 1331 dans cette bonne ville de Paris. Nous sommes en balade avec Riyad Satouf, l'auteur de L'Arabe du Futur, 4e volume qui vient de sortir, un vrai phénomène. Hein. Ça se vend dans le monde entier, L'Arabe du Futur. Comment l'expliquez-vous?
C'est difficile à expliquer, je dirais, parce que c'est une bonne BD.
Oui, c'est vrai que c'est une bande dessinée remarquable, c'est un roman graphique, c'est le récit de votre enfance. Puisque vous êtes le fils d'un Syrien et d'une Française, que vous avez passé votre enfance en Libye, en Syrie, en France, puis retourné en Syrie. Et c'est ce que vous racontez en détail. Comment vous faites pour vous souvenir aussi précisément de scènes qui se sont passées quand vous aviez 3 ans, que vous étiez tout blond, avec des yeux en demi-lune?
Mais disons que je pense que les voyages successifs qu'on faisait avec ma famille et que je raconte dans L'Arabe du Futur sont... On fait en sorte que j'avais un quotidien qui était très peu routinier. Et je pense que les enfants adorent la routine, ce qui leur fait en général oublier les choses. Parce que comme toutes les journées se ressemblent, ils savent plus vraiment replacer les choses dans le temps. Or, nous, comme avec ma famille, on voyageait énormément, on n'était jamais, on restait jamais au même endroit. J'ai une succession d'images très précises vers lesquelles je peux me retourner. Je retournais assez facilement et assez précisément.
Quand vous viviez en Libye ou en Syrie, c'était des dictatures très pauvres, hein, un peu enivrées d'elles-mêmes d'ailleurs, où les écoles étaient dans des états terribles, les professeurs étaient très violents, les châtiments corporels étaient permanents, les élèves étaient violents par la même occasion. Les 6 mois de suivant, vous vous retrouviez en Bretagne, entouré d'enfants protégés, choyés par leurs parents, qui étaient au fond très souvent des bébés timorés, un peu débiles.
Ça, c'est votre interprétation,
Frédéric. Non, 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 c'est ce que vous racontez. Mais c'est très drôle, non, vous faites avec beaucoup d'humour.
C'est vrai qu'en fait, la différence principale qui existait entre les enfants dans mon village en Syrie et les enfants en Bretagne, c'était que les enfants du village en Syrie étaient beaucoup plus laissés à eux-mêmes que les enfants français qui étaient surprotégés. Pour le coup, ils étaient beaucoup moins matures, je dirais. Moi, je me rappelle très bien, à 5-6 ans, des gamins dans le village de Termalet, ce que je raconte dans L'Arabe du Futur, ils n'hésitaient pas à faire 4 km tout seuls dans la nature, à aller à un autre endroit du village sans personne.
Alors qu'il y avait d'énormes camions de 50 tonnes qui déboulaient à toute allure.
Oui. Il y avait des fossés avec des pics en fer au fond, des étendues d'eau où il y avait régulièrement des enfants qui se noyaient. Voilà, c'était un univers où il fallait, qui était très humain, dans le sens archaïque, en fait.
Et l'arabe du futur, alors, est-ce que c'était vous ou est-ce que c'était l'idée que se faisait votre père, qui était ce qu'on appelait à l'époque un nationaliste progressiste? Il y en avait beaucoup dans les pays arabes qui avaient fait leurs études dans les pays occidentaux. Lui, il était universitaire, il était docteur d'une université française. Et il croyait à une espèce d'avenir du panarabisme, d'un arabisme laïque et progressiste.
Oui, disons que en fait, l'arabe du futur, c'est ce que je raconte dans le premier volume de la bande dessinée. C'est moi, comme tous les enfants, j'avais pas envie d'aller à l'école. Comme beaucoup d'enfants, je préfère rester jouer avec mes Lego à la maison. Et mon père, pour me forcer à aller à l'école, me disait « Mais tu dois aller à l'école parce que l'arabe du futur va à l'école. » Parce que pour lui, c'était en opposition avec l'arabe du passé qui était ignorant, selon lui, et analphabète. Lui, il avait une haute idée de l'éducation. Il voulait que le monde arabe entre dans la modernité. Et c'est vrai que tout ce projet de l'arabe du futur tournait autour de ce que je raconte dans le volume 4, où là, il y a vraiment le secret familial qui a fait que je me suis lancé dans ce projet. Mais c'est vrai que mon père était quelqu'un de très contradictoire. C'est-à-dire, à la fois, il était pour une grande modernité, pour faire entrer le monde arabe dans le XXe siècle, et il essayait d'allier ça avec un respect des traditions, et avec... Il était toujours superstitieux, il croyait aux forces du mal.
Alors là, il y a la police, il y a les pompiers.
Il y a un problème de gaz. Oh là là, on ne peut pas passer, en fait.
Il y a une conduite de gaz qui risque d'avoir...
On va s'éloigner, parce que ça se trouve, ça va nous exploser dessus. Alors moi, je m'en vais.
En dépit de votre enfance aventureuse en Syrie, parmi les clous rouillés et les 50 tonnes,
bien sûr. Vous êtes complètement... Je demande un héliportage, s'il vous plaît. Évacuation hélico. Pas fait la Syrie pour mourir dans une explosion de gaz à Paris, c'est pas possible.
Je crois que là on est à l'abri, Riyad Satouf, vous sentiez mieux?
Désolé, je suis parti en courant, je vous ai laissé.
Bon, en tout cas, il n'y a toujours pas eu d'explosion. On va prendre un autre chemin puisque nous dirigeons vers le centre Pompidou. Vous aurez bientôt une exposition, vous me raconterez ça. Mais d'abord, une pause.
Frédéric Taddeï, en balade avec Riyad Satouf sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi et tout cet été, Frédéric Taddeï vous fait revivre chaque dimanche une de ses meilleures balades. Aujourd'hui, c'est celle avec le dessinateur et réalisateur Riyad Satouf qu'il a choisi. On les retrouve tout de suite dans Paris.
Nous sommes donc dans le centre de Paris avec Riyad Satouf. On se dirige vers le centre Pompidou. C'est vraiment le Paris d'autrefois qui nous entoure. Un Paris qui n'a pas tellement changé, à part ces poteaux qui empêchent les voitures de se garer sur les trottoirs. On pourrait être au XVIIIe siècle ici. Hein.
Sauf les habitants aussi, qui maintenant sont des gens extrêmement richissimes qui habitent des...
Et vous rigolez, celui qui habitait l'hôtel Jean Bar, dans lequel on est, là, qui a été construit sous le règne de François Ier, il était beaucoup plus riche que les plus riches d'aujourd'hui. Il vivait, il avait des dizaines et des dizaines de domestiques, il habitait dans un mini-château. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que les riches, au fond, vivent un peu comme tout le monde, j'allais dire comme des ploucs, mais ils vivent comme tout le monde.
Ah oui, peut-être. Oui,
par rapport aux riches d'autrefois.
Mais en même temps, ça dépend de quel est, où est-ce qu'on place l'échelle de la richesse. Par exemple, j'ai des copains ultra riches, je me suis rendu compte qu'ils étaient très riches, qui me disent « mais non, nous, notre famille n'est pas du tout riche ». Or, il y a des gens qui pensent ne pas être riches alors qu'ils sont déjà très très riches. Et des gens,
Vous savez, je vais vous donner la bonne définition de la richesse. C'est celle qui marche à chaque fois. Et riche, celui qui gagne trois fois plus que vous. Vous verrez que cette définition-là marche à tous les coups. Est-ce que vous avez l'impression d'être devenu riche, vous, depuis quelque temps? Pendant 15 ans, vous avez plutôt mal gagné votre vie en tant que dessinateur de bande dessinée.
Je gagne beaucoup plus que trois fois plus qu'avant.
Bah alors, vous sentez très riche, mais ça ne va pas durer.
Non, ce qui est assez amusant, c'est que je ne me sens pas spécialement différent d'avant. Et j'ai
toujours mais plus riche, on peut se sentir plus riche sans se sentir différent.
Oui, mais alors, je pense que comme je suis d'une famille où on a toujours eu des galères d'argent, ouais. Et ce que je raconte dans l'Arabe du futur, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait habité... Oh, il y a du bruit là.
Il y a des travaux. Alors, depuis que je fais cette émission et que je me promène beaucoup dans Paris dans les journées, je m'aperçois à quel point il y a des travaux,
Tout
partout.
Le temps.
Des travaux et des touristes.
Ouais, tout le temps, partout, tout le temps. Et ça fait énormément de bruit. Il faut s'arrêter de parler pendant en ce moment-là. Non, ce que je disais, c'était que comme j'étais d'une famille qui avait toujours des problèmes d'argent, j'en ai gardé des réflexes comme le hamster, vous savez, quand il entend le bruit d'un plastique qu'on froisse, il croit qu'on va lui donner à manger et il a un petit coup de stress. Et en fait, moi, c'est assez régulièrement que je me dis, purée, mais l'année prochaine, attends, faut que j'ai des trucs à faire l'année prochaine, parce que comment je vais faire, parce que c'est, si, faut que je... Et en fait, je me rends pas compte que j'ai plus à avoir ces peurs-là, parce que finalement, je peux faire des bandes dessinées comme je veux les faire. Les éditeurs sont toujours contents quand je vais les voir avec un projet. Mais j'ai toujours cette peur d'être refusé ou je sais pas. D'être,
Mais comment sont vos rapports quand vous êtes édité, je sais pas, en Corée du Sud aujourd'hui? Comment vous discutez, parce que je sais que vous êtes très regardant sur, en fait, sur le travail d'édition de votre travail. Alors avec les Sud-Coréens, comment vous vous expliquez? Est-ce que vous entendez bien?
En fait, c'est très simple. C'est-à-dire que je me suis d'abord mis d'accord avec mon éditeur français. Et c'est lui, après, qui fait toutes les choses de son côté. C'est-à-dire, par exemple, pour l'Arabe du futur, il y a interdiction de changer la maquette du livre, interdiction de changer le papier du livre, interdiction de changer les couleurs Pantone, ni la taille du livre. Et il y a le droit de mettre le logo de l'éditeur du pays, mais c'est vraiment le seul...
Bon, ça se passe au Japon, où on lit dans un autre sens.
Par exemple, au Japon, alors, le Japon, ce n'est pas traduit en japonais, l'Arabe du futur. Ah. Mais si ça devait être traduit en japonais ou en arabe, par exemple, là, j'accepterais qu'on inverse les pages en miroir pour pouvoir les lire.
Vous voulez dire que pour l'instant, il n'y a aucune version arabe de l'Arabe du futur?
En fait, il y a très peu d'éditeurs déjà dans le monde arabe. On a eu assez peu de propositions, mais on en a eu quand même. Mais les propositions qu'on a eues, en fait, ne me plaisaient pas parce que c'était des éditeurs qui voulaient publier le premier volume et voir si ça marche avant de faire les autres. Ils achetaient les droits du 1. En fait, moi, je ne pouvais pas prendre le risque que la langue arabe ait juste le premier épisode de l'histoire. Voilà, je voudrais qu'il y ait tout. Donc, j'ai dit, on ne le fait pas en arabe. Et quand la BD sera terminée, on proposera aux éditeurs de tout faire d'un coup.
Vous mégotez pas, vous, hein?
Je suis de pire en pire. Je suis de plus en plus maniaque. Je m'arrange pas du tout.
Rien, ça touffe, c'est tout ou rien.
Ah ouais, c'est exactement ça. Voilà, c'est vrai que, par exemple, avec mon éditeur, qui est Guillaume Allary, c'est un éditeur indépendant. Pour moi, c'était très important d'être avec un éditeur indépendant. Et qu'il a monté sa maison d'édition. L'Arabe du futur devait être le deuxième ou le troisième livre qu'il a publié. Et je lui ai demandé que je sois le seul auteur de BD de sa maison d'édition.
Ah oui.
Donc il n'a pas le droit de faire d'autres BD que les miens. Non, mais c'est vrai que moi j'aime bien les autres auteurs de bande dessinée. Mais comme j'ai beaucoup pratiqué toutes les maisons d'édition, les grandes maisons d'édition très installées, j'ai jamais été tellement à l'aise avec l'idée de faire partie d'un groupe, d'être un des membres d'un groupe de mecs. Je sais pas comment dire. C'est vrai qu'à partir du moment où on est plusieurs sur un truc,
sur un coup,
je sais de toute manière que ce serait jamais moi sur qui on mettra le paquet, donc j'ai préféré me casser.
Ils auraient tort. Vous avez fait les Gobelins, l'école des Gobelins, ça vous a été utile?
En fait, c'est une école de cinéma d'animation. Ça m'a été très utile pour...
Pour faire des films.
Oui, mais aussi, surtout, parce que c'était une école qui avait un concours très difficile pour y entrer, où il y avait beaucoup de candidats et très peu de place. Et c'était une école qui m'a convaincu que le dessin pouvait être quelque chose d'estimable. C'était pas du tout de la rigolade, le dessin, dans cet endroit-là. Comme j'avais une haute estime et une haute idée du dessin et de la narration dessinée, ça m'a réconcilié avec...
Cette haute idée du dessin, ça vous vient de votre grand-mère? Dans l'Arabe du futur, on voit qu'elle vous prend, votre grand-mère française, elle vous prend pour un génie quand vous avez 4 ans. Peut-être que vous faites n'importe quel gribouillis, elle trouve ça génial.
Oui, mais c'est vrai que ma grand-mère me prenait vraiment pour un génie intersidéral, alors que j'étais loin d'être un génie, mais c'était son regard qui importait. C'est aussi et surtout que la bande dessinée, ça a été vraiment un... Et le dessin et la face, le raconter des histoires en images a été quelque chose qui a accompagné toute ma vie, parce que mes premiers souvenirs sont des souvenirs de dessin. Ensuite, quand j'étais enfant, j'utilisais le dessin pour intéresser les autres et qu'on s'intéresse à moi. Ensuite, quand j'ai été ado, j'ai dessiné pour m'évader du quotidien, de la difficulté d'être adolescent, comme beaucoup d'adolescents. Je créais des paysages pour voyager et oublier le quotidien. Et une fois que je suis devenu adulte, le dessin me permet de vivre, en fait. Donc, j'ai une haute estime de cette activité, parce que ça m'est aussi essentiel que de manger ou de boire. Donc,
Puisqu'on parle de l'Arabe du futur, je vous propose... d'écouter une chanson de Rachid Taha qui vient de nous quitter. C'est Galbi, extraite de ce qui sera son dernier album. On écoute Rachid Taha, vous l'aimez beaucoup aussi?
Ah ouais, je l'aimais beaucoup et je regrette parce que j'avais failli le rencontrer, ça ne s'est jamais fait.
صادقي دايما معاه هو دليلي وخلاصي راح نعلي كل شي انا مش حرايمي هو صاحبي داوني وفرحني كتاب في بغيه يطمني ويهديني كتاب في بغيه يطمني ويهديني دايما أمن بيه صاحبي وصديقي دايما معاه هو دليلي وخلاصي يوري لي بوتي يوري لي الشام والله والله يعمل أمور أكرام دايما تجوز زهواني ومشروعي
C'était Galbi, chanté par Rachid Taha, qui vient de nous quitter, qu'on aimait beaucoup. Riyad Satouf et moi, on arrive au pied du Centre Pompidou. On se dirige vers la bibliothèque, la BPI, la plus grande bibliothèque publique de Paris. On se retrouve dans un instant.
C'est dans la bibliothèque du Centre Pompidou qu'on retrouve Frédéric Taddeï et Riyad Satouf. Rappelez-vous, c'était à l'occasion de la sortie du 4e tome de l'Arabe du Futur en début d'année.
Nous voilà dans la BPI, la principale bibliothèque publique de Paris, qui se trouve à l'intérieur du Centre Pompidou. On ne va pas parler fort parce que c'est une bibliothèque. Il y a encore quelques semaines, mon fils ici révisait son bac, qu'il a eu d'ailleurs. Je le félicite et je félicite la bibliothèque par l'occasion. Riyad Satouf, vous allez être... exposé ici même. Hein. Alors, il ne faut pas confondre la BPI avec la bibliothèque Kandinsky, qui est la bibliothèque des arts visuels du 20e et 21e siècle, qui se trouve également au Centre Pompidou. Je pensais que c'était là qu'on allait vous exposer. Mais non, c'est Emmanuel Payen qui est là avec nous, qui est la commissaire de l'exposition. Que va-t-on exposer de Riyad Satouf?
On a travaillé avec Riyad, avec beaucoup de bonheur, pour montrer son travail. Et il nous a ouvert son atelier, ses chemises, dans lesquelles on a trouvé des trésors. Donc des planches originales, bien évidemment, des croquis, les storyboards de beaucoup de ses histoires, de ses récits. des objets personnels, des photographies, voilà, tout un tas de trésors qu'on va exposer.
Tout de suite, il y a deux choses que j'aimerais beaucoup voir. Est-ce que d'abord vos dessins de Georges Pompidou, puisqu'on est au centre de Pompidou, vous faisiez quand vous étiez petit et qui suscitaient l'admiration de vos professeurs, est-ce qu'ils sont exposés?
Alors non, parce que ma mère ne les a pas conservés. Mais par contre, il y a des dessins de barbares et de scènes violentes et de massacres de masse que je faisais quand j'avais 6-7 ans. Donc il y a quand même des choses à voir.
Et deuxième question, puisqu'il y aura des photographies, est-ce qu'on va enfin voir la photographie de la vraie Esther, cette petite fille qui vous raconte son univers et qui vous inspire, Les Cahiers d'Esther, un de vos plus grands succès, que personnellement
Alors,
j'adore.
Non, je ne peux pas la mettre sa tête parce qu'elle est anonyme. Donc,
à mon avis, c'est un truc pour ne pas la payer, ça.
Parce qu'un jour, c'est votre théorie, mais...
Vous savez bien qu'un jour, elle vous demandera des droits d'auteur.
Peut-être qu'elle existe.
Et vous lui direz, non, je ne te connais pas.
Non, mais de toute façon, je la paye un peu. Faut quand même le dire. Elle a des droits, quand même. Mais c'est vrai que je garde son identité secrète, donc je ne vais pas... Mais quand elle aura 18 ans, libre à elle de se déclarer comme étant la vraie Esther.
Vous avez là la maquette de l'exposition, Emmanuel?
C'est la maquette de l'exposition. La scénographie a été réalisée par une scénographe architecte qui s'appelle Marie Corbin. Et donc, comme vous le voyez, on va rentrer par là. Voilà.
On va rentrer par là.
Les auditeurs d'Europe 1, qui a l'air vraiment hyper bien faite.
On va déambuler à l'intérieur de cet espace d'exposition qui figure en fait un labyrinthe. Et qui est composé en trois parties. Une première partie où on va montrer en fait le talent d'observateur de Riyad, son œil presque quasi sociologique, la manière dont, surtout dans ses travaux du début, mais aussi ce qu'il fait avec les cahiers d'Esther, la manière dont il observe les autres et l'attention qu'il porte aux autres.
C'est vrai qu'on a rarement été plongé à ce point dans l'univers d'un enfant que dans les cahiers d'Esther. C'est même les parents d'enfants de cet âge-là n'ont pas une telle connaissance du monde dans lequel vivent leurs enfants.
Disons que c'était aussi le but des cahiers d'Esther, c'était d'écouter ce qu'une fille de cet âge-là avait à dire sur le monde sans filtre, en fait. C'était une enfant au début de ce projet. Les histoires qu'elle racontait n'étaient pas vraiment pour enfants. Ça fait partie du paradoxe de cette bande dessinée aussi, c'est que pour montrer les choses telles qu'elle les vit vraiment, il y a des sujets un peu choquants parfois.
Oui, très souvent. Vous n'avez pas peur de choquer, Emmanuel, dans cette exposition?
On n'a pas peur de choquer. Certaines images peuvent heurter la sensibilité du jeune public. Ce sera écrit à l'entrée de l'expo. C'est pas si choquant que ça, en fait, parce que pense que les temps ont changé, et puis parce qu'il y a toujours une intelligence et... Une tendresse dans les dessins qui font que c'est pas méchant. Voilà.
Alors, cela dit, maintenant, il y a des lois sur le sexisme et Esther, comme souvent les enfants de cet âge-là, sont très sexistes. Vous n'avez pas peur de tomber sous le coup de la loi?
J'ai rarement peur de tomber sous le coup de quoi que ce soit avec mes histoires. Et au contraire, je trouve ça très intéressant quand Esther me raconte ses histoires de comment elle se vit en tant que fille, comment les garçons se vivent en tant que garçons, comment les garçons la considèrent, comment...
Vous m'aviez dit un jour qu'au fond, ce n'était pas très différent de ce que vous aviez connu en Syrie.
En fait, ce qui m'avait étonné avec ce que me racontait Esther, en effet, c'est qu'il y avait le monde des filles qui était entre elles, et il y avait le monde des garçons qui étaient entre eux. Et c'était très peu poreux. Et là, maintenant, elle est au collège, donc elle est en quatrième. C'est en train de se mélanger quand même beaucoup plus que ça ne l'était en primaire.
Il n'y aura pas que Esther, hein, il y aura toute la carrière de... Riyad Satouf.
C'est une rétrospective et donc après cette première partie qui est consacrée à l'observation du réel et au talent d'observateur et de conteur de Riyad, on va avoir une deuxième partie où on va montrer toute la richesse et la diversité de son talent graphique en montrant là aussi, parce que Riyad nous a fait confiance et on en est très reconnaissant, des dessins d'étudiants, des dessins d'enfants, ce qu'il a fait aux arts appliqués, pour montrer justement comment dans ses premiers dessins, on peut voir, pressentir ce qui sera déployé ensuite. Et puis une troisième partie qu'on a consacrée plus particulièrement à l'arabe du futur et au récit autobiographique. Voilà, au roman graphique, avec toute la tension qu'il peut y avoir entre la littérature et le dessin, entre le récit et le dessin, et la manière dont justement, dans ce qu'on considère tous comme une œuvre de maturité, il se raconte et aussi il arrive à faire comprendre et à montrer comment on grandit. Et c'est justement ça ce qui est le plus attendrissant dans l'arabe du futur, c'est comment on devient grand finalement.
Il y a une tension aussi entre le dessin et la vidéo, puisque maintenant les cahiers d'Esther, je y reviens toujours, hein, c'est devenu une série en dessin animé sur Canal+. Ça a commencé il y a peu, là, vous en êtes content?
Ah, j'étais très content de faire cette série, oui, tout à fait. Donc la série suit exactement les pages de la bande dessinée. On a même pu garder le nom des marques. Normalement, on n'a pas le droit de mettre des noms de marques dans les séries comme ça, mais c'était important de garder l'univers de la vraie Esther et son univers entre guillemets mythologique, avec les trucs qu'elle rêve d'avoir, les trucs qu'elle a, les trucs. Et donc c'était vraiment une expérience très très enrichissante de pouvoir explorer l'animation. En fait, j'avais jamais fait d'animation jusqu'à présent.
Vous avez remarqué qu'ici, dans cette bibliothèque, la BPI, on ne peut pas emprunter de livres. Je crois que c'est la seule bibliothèque où on ne peut pas emprunter de livres. Et pourtant, il y en a énormément. Il doit avoir, je ne sais pas, 350 000 volumes. On ne peut pas les emprunter. Vous savez pourquoi?
Alors, parce que c'est une bibliothèque de consultation de sur place, avec cette idée justement qu'on a un exemplaire de chaque ouvrage et que ça a un avantage, en tout cas, qui est celui de toujours trouver les ouvrages que l'on cherche et que l'on vient y chercher. Et c'est une bibliothèque à la fois d'études et aussi de médiation. C'est bien pour ça qu'on y présente des expositions et qu'on y fait des débats et des rencontres.
Merci Emmanuel Payen. On va se diriger maintenant vers le Café Beaubourg. On a rendez-vous avec votre ami Émile Bravo, lui aussi auteur et dessinateur de bande dessinée. On se retrouve juste après les infos avec Riyad Satouf.
Frédéric Taddeï en balade avec Riyad Satouf sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Riyad Satouf, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Riyad Satouf, l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, l'auteur de l'Arabe du futur, dont le quatrième tome vient de paraître, l'auteur également des Cahiers d'Esther, autre énorme succès de la bande dessinée. Nous sommes sur le parvis du Centre Pompidou, un endroit très apaisant et en même temps très fréquenté. Je ne peux pas, quand je suis là, ne pas penser à Pascal Brutal, qui est un autre de vos héros, Riyad Satouf, le roi des hommes, qui vit dans un futur proche, un peu post-apocalyptique, où Alain Madelin serait président de la République. Une bande dessinée que vous faites depuis 2004, une illustration de la nouvelle virilité, de ce que vous appelez la nouvelle virilité, qui m'a toujours semblé un peu tous ces codes de l'homme fort. Je me demande si ça ne vient pas de votre enfance en Libye, en Syrie, justement.
Ben, sans doute, mais c'est vrai que, comme je suis un garçon et que je n'ai jamais trop aimé, enfin c'est un peu caricatural et classique ce que je veux dire, mais j'ai essayé d'être un sportif, mais j'avais beaucoup de mal à courir après le ballon. J'étais pas très bon dans la coordination de mes mouvements et j'avais une voix assez efféminée. Je pense qu'on peut encore l'entendre. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à être considéré comme un vrai garçon par les autres garçons. Et ça m'a éveillé très tôt sur justement cette espèce d'échelle qui fait qu'à un moment, on est digne d'être un homme et à d'autres moments, on aura toujours des preuves à faire.
Alors moi, la question que je me pose, c'est comment vous voyez le futur, alors non pas l'Arabe du futur, mais le futur d'un pays comme le nôtre. Quand on lit Pascal Brutal, on se dit que, vous voyez, le futur, la France sera la fille aînée du rap, du shit, de l'ultralibéralisme et du porno. Et il y a un côté, là, sur le parvis du Centre Pompidou, on se dit que ça pourrait être un décor pour Pascal Brutal. Ou alors, au contraire, vous voyez ça comme quelque chose de très écolo, où on ne mangera plus d'animaux, où tout sera apaisé, paisible. On ne sera pas du tout dans le règne de l'ignorance.
Ben disons que c'est vrai que dans les histoires que j'ai pu faire dans Pascal Brutal, qui c'est une bande dessinée de science-fiction un peu post-apocalyptique, j'essaie d'imaginer tout ce qui pouvait se passer de pire pour essayer de l'exorciser dans notre monde.
Dans un pays où, enfin, à une époque où l'intelligence ne paierait plus.
Oui, c'est ça, exactement.
L'ignorance régnerait en mer.
Alors j'avoue que quand j'ai commencé à écrire Pascal Brutal, donc c'était en 2003, finalement c'était il y a très longtemps, le monde n'était pas comme il l'est aujourd'hui. Par exemple, dans Pascal Brutal, j'aurais jamais pu imaginer quelqu'un comme Donald Trump. Enfin, j'aurais pu l'imaginer, mais je me serais dit, c'est trop ridicule et énorme de le mettre dans cette histoire, c'est débile, ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai que le réel, souvent, rattrape la fiction et la dépasse et lui fait beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à écrire du Pascal Brutal aujourd'hui. Mais pour le coup, je reste assez optimiste sur le futur. Je sais pas, j'ai l'impression que le
futur sera bio, paisible, non, le savoir régnera.
Oui, mais comme l'être humain, lutte tellement pour sa survie, il ne pourra pas s'autodétruire. Il y a un moment où il va s'arrêter.
Ça fait plusieurs fois que vous me rappelez que l'être humain lutte pour sa survie. Déjà tout à l'heure, vous disiez de la chasse et de la nature. Au fond, vous êtes comme Pascal Brutal, un fils de la violence.
Bah, disons que lutter pour sa survie, ce n'est pas être forcément pour la violence. Ou être, mais l'être humain ne veut pas mourir, ça c'est sûr. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va finir par découvrir l'immortalité de manière scientifique. Il va trouver comment guérir de toutes les maladies. Il va prendre en charge...
Vous êtes transhumaniste.
Non, je ne suis pas transhumaniste, mais j'imagine que c'est le chemin que va prendre la science. Alors, il arrivera forcément un moment où on va faire des découvertes qui vont changer la façon dont on vit.
Alors évidemment, comme dans tous les quartiers piétonniers, il y a beaucoup de filles, beaucoup de jolies filles. Est-ce que vous savez dessiner les jolies filles, Riyad Satouf ?
Sans doute que j'ai moins l'obsession de dessiner les jolies filles que peuvent l'avoir beaucoup d'autres dessinateurs de bande dessinée. Je suis plus intéressé par les difformités physiques que par la beauté, j'avoue.
Mais alors, à la différence de votre ami Johann Sfar, sur qui on sait absolument tout, puisqu'il nous raconte tout dans ses livres et dans ses bandes dessinées, où on sait très peu de choses. On connaît toute votre enfance, mais on sait très peu de choses. On ne sait pas si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous êtes hétérosexuel, hétérobeauf, si vous êtes homosexuel, si vous êtes queer. On ne sait rien. Pourquoi une telle discrétion ?
Bah, disons que...
La mode, c'est plutôt de raconter sa vie.
Ouais, mais alors, voilà, pour le coup, c'est vrai que c'est une mode à laquelle je ne souscris pas complètement. Disons que, comme dans l'Arabe du futur, je raconte des parties très intimes de ma vie en les recréant, c'est une manière aussi de contrôler ce que j'ai envie de dire ou de ne pas dire. Après, dans mes livres, j'ai exprimé pas mal de choses, quand même, mais c'est vrai que se donner entièrement... Déjà, je pense que c'est pas très intéressant. En tout cas, de mon cas, je pense que ça n'intéresserait pas grand monde. Et je préfère... réarranger le réel pour le rendre plus présentable. Je sais pas comment...
c'est ce que faisait aussi Paul Anka en 1958 quand il chantait Les filles de Paris. Vous connaissez cette chanson ? Ah, vous allez voir, tout le monde reconnaît Les filles de Paris, mais je pense que quand même, il embellissait un peu les choses. On va écouter Paul Anka tout en entendant les cloches sonner les cloches de l'église Saint-Martin.
Thank you.
C'était Les Filles de Paris, chantées par Paul Anka. On était en 1958. Vous êtes d'accord avec lui? Les Filles de Paris sont les plus jolies du monde?
Non, pas du tout. Je pense qu'il y a des jolies personnes partout sur Terre. C'est pas que à Paris.
On connaît votre côté qui ne veut se fâcher avec personne. Riyad Satouf, l'homme le plus consensuel du monde. C'est ce qui fait qu'on vit partout maintenant.
C'est lui qui est très consensuel. Moi, je suis pas du tout... Mais c'est vrai que... J'aime pas trop les généralisations en général. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que je suis tenté de généraliser sur plein de choses tout le temps et j'essaie de me forcer de pas le faire.
C'est drôle quand on est devant le centre Pompidou, comme on est maintenant, on a vraiment l'impression d'être des touristes dans notre propre ville. Hein.
C'est vrai qu'on se croirait un peu sur un lieu de vacances.
Oui, hein.
Je vois notre collègue qui est là-bas.
On a rendez-vous avec Émile Bravo, hein. C'est votre ami.
C'est mon pote.
C'est votre pote, c'est lui qui dessine le petit Spirou. On se retrouve dans un instant avec Émile Bravo et Riyad Satouf.
Frédéric Taddeï, en balade avec Riyad Satouf sur Europe 1.
En début d'année, Frédéric Taddeï était parti en balade avec Riyad Satouf et il s'était installé dans une brasserie du 4e arrondissement de Paris, où ils avaient été rejoints d'ailleurs par un autre dessinateur.
Nous sommes avec Riyad Satouf au Café Beaubourg, avec Émile Bravo, que j'ai présenté comme l'auteur du Petit Spirou.
Ah non.
Et tout de suite, je vous présente mes excuses. Ce sont les nouvelles aventures de Spirou. Un mauvais départ vient de paraître chez Dupuis. Vous avez repris la saga Spirou et pas celle du Petit Spirou.
Non, non. Alors le titre, c'est vrai que le titre de cet album s'appelle Un mauvais départ, mais le titre c'est plutôt L'espoir malgré tout. Voilà,
parce qu'en fait, puisque ça commence au moment où la Belgique en 1940 est attaquée par l'Allemagne. Spirou et Groom, il est très jeune, ce qui m'a induit en erreur.
Oui.
T'as Spirou très jeune, mais déjà Groom. Fantasio, lui, est dans l'armée belge.
Voilà.
Et donc, effectivement, ça va se dérouler, je pars en toute la guerre, j'imagine.
Oui, c'est-à-dire, en fait, il y a une dizaine d'années, j'avais fait un Spirou, donc où j'expliquais un petit peu la genèse du personnage. Et ça se terminait, paf, la guerre éclatait. Et voilà, mais bon, c'était au départ fait pour faire une histoire, un one-shot. Quoi. Et puis après, les éditeurs m'ont dit, écoute, si t'as quelque chose d'autre à raconter sur Spirou,
alors ça,
pas.
C'est un préquel ou c'est un reboot? Les préquels, c'est quand on raconte ce qui s'est passé avant l'histoire. On fait ça dans Star Wars.
Oui.
Les reboots, c'est quand on imagine un nouveau départ. Vous l'avez fait dans Pascal Brutal, Riyad Satouf. Là, c'est quoi?
Là, c'est plutôt un truc qui manquait, en fait. Dans mon enfance, ça manquait, en fait. Expliquer d'où venait ce personnage, qui il était, ses rapports avec son ami Fantasio. Je dis souvent que quand on lit un Tintin, on sait d'où vient Haddock, d'où vient le professeur Tournesol.
Comment ils se sont rencontrés?
Comment ils se sont rencontrés, voilà. Et donc, ça manquait. Parce qu'on nous
c'est vrai que ce n'est pas du tout raconté dans Spirou. À aucun moment, la façon dont ils se rencontrent la première fois, c'est toi qui
non.
le...
Ouais.
Non, moi j'ai jamais lu d'autres Spirou que ceux d'Émile, donc c'est vrai que je connais mal.
Faut dire, il y a eu beaucoup d'auteurs de Spirou. Le premier c'était Rob Vell, ensuite il y a eu Franquin, Fournier, etc.
Tout ce qui a suivi.
Et un héros irréprochable comme Spirou, est-ce que ça n'est pas un peu désuet? C'est comme si on reprenait Tintin aujourd'hui, on a l'impression que ce serait difficile.
Oui, mais c'est-à-dire en fait, moi j'appelle ça un vecteur. C'est celui qui en fait qui nous entraîne par la main dans une aventure. Donc il faut qu'il soit irréprochable, un peu lisse. Mais bon, moi je m'amuse quand même à le.
Il a une amoureuse. Il a pas n'importe quelle amoureuse. Elle est allemande, communiste et elle vient du RSS.
Ouais,
et en plus, je m'imagine la tête qu'aurait fait Franquin.
Et en plus, elle a une mère juive, alors évidemment, donc c'est compliqué,
oui.
Pendant cette époque surtout. Donc, je le maltraite un petit peu de façon à comprendre comment un groom devient un aventurier, comment il s'éveille au monde. Et donc, pour ça, il lui faut des petits traumas, quoi. Et l'éveil aussi par une. Enfin, il fallait qu'il rencontre une fille, parce que c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de filles, en fait, dans l'univers de Spirou, c'est parce qu'il n'y en a qu'une. Et c'est celle-là. Et voilà.
Vous êtes très copains tous les deux. Vous voyez où chez vous, dans vos ateliers respectifs? Vous comparez vos dessins?
On va dans des bars en général, on va boire des coups. En fait, Émile, c'est le premier auteur de BD qui. Alors, j'admirais son travail avant de le connaître, mais c'est un des premiers que j'ai rencontré et qui s'était intéressé à ce que je faisais. Disons qu'il était encourageant. C'est quelqu'un de très encourageant qui essaie toujours de voir ce qu'il y a de bien chez les autres. Enfin, je sais pas comment. C'est lui qui m'a présenté à Johannes Farr, à Christophe Blin. à Mathieu Sapin et j'ai pu faire un atelier avec eux grâce à Émile. Donc c'était vraiment lui qui a été à la base de... C'est un très grand auteur et c'est Spirou qui sont...
Non mais surtout, en fait, ce qu'il faut raconter, c'est que moi, quand je t'ai rencontré, en fait, t'étais vraiment ce que j'appelle le tâcheron d'un scénariste. Et tu dessinais, en fait, pour quelqu'un.
Et ce qui est d'autant plus honorable de sa part de s'être intéressé à moi, parce que, comme il me l'a dit lui-même, il m'a dit que c'était vraiment de la merde ce que tu faisais.
Non, en fait, c'est pas, j'ai jamais dit ça.
Il y a tellement de gens qui ont pensé ça sans jamais s'intéresser à moi au-delà. Il m'a dit c'était de la merde ce que tu fais, et puis ils se sont cassés. Lui, il a continué, il m'a dit mais tu devrais faire tes trucs.
Et maintenant qu'il est milliardaire, vous êtes content.
Allez, tournez.
Attendez, c'est à boire, c'est pour nous.
On vous attendait comme le messie. Il est extrêmement sérieux, on n'a pas d'alcool.
Merci.
Sauf Frédéric Tadéhi qui boit un grand cru.
Merci beaucoup.
Merci,
monsieur.
Monsieur.
Est-ce qu'il y a de la rivalité entre dessinateurs, même quand on est amis? Est-ce qu'on regarde la planche de l'autre en se disant « Ah tiens, ça, j'aimerais bien le faire. Ça, il le fait mieux que moi. » Vous voyez?
Moi, je disais tout à l'heure, je l'enviais dans sa liberté, en fait. Son écriture graphique est tellement simple et fluide que voilà, quoi, c'est fantastique, en fait. Je sais que derrière, il y a beaucoup de travail, mais
Beaucoup de travail. Si on compare, par exemple, votre album de Spirou et son Arabe du futur, vous, en moyenne, par planche, il y a 15 cases, et lui, il y en a entre 6 et 9. Vous, les décors et les personnages sont minutieusement dessinés. Lui, c'est 3-4 traits.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que j'allais dire à l'instant que pour mon anniversaire, Émile m'a offert une page originale de son premier Spirou. Je l'ai encadrée, elle est dans mon bureau. Et je la regarde tout le temps, je dis, mais c'est dingue comment il dessine tous les décors, les fenêtres.
Tous les détails, hein, c'est dingue. Les poignées de porte et tout.
Non, mais Émile, il déteste ce que je dis là. Mais, je veux dire, j'envie ça d'un certain côté, parce que moi, j'aurais pas la. Même le niveau technique pour le faire.
Ben non, c'est pas vrai. Il dessine super réaliste et tout aussi quand il veut.
C'est vrai que c'est
quand il veut.
Moi, je pourrais pas dessiner un Spirou.
Mais par exemple, la Libye ou la Syrie de votre enfance dessinée par Émile Bravo, je pense que ce serait vraiment, on aura envie de se flinguer. C'est-à-dire que les murs fissurés que vous dessinez, vous, de façon assez sommaire, très parlante, mais sommaire, lui, si vraiment il entrait dans les détails, ce serait pas possible. On le verrait comme votre mère a dû voir la Libye et la Syrie.
De toute façon, on a un contrat. Si je me fais écraser par un camion poubelle, c'est lui qui doit dessiner la suite de l'Arabe du futur. C'est chez mon notaire. Donc je ne risque plus rien. Donc vous avez peut-être une chance que ça se produise dans le... Non, Émile, c'est un très grand dessinateur.
Non, je m'inscris en faux parce que je trouve que j'essaye d'évoquer les... Non, ça a l'air bien dessiné, mais si vous regardez, en fait, non, c'est des traits comme ça. C'est plus évoqué que vraiment super détaillé, précis.
Quand vous dessinez les panzers...
J'en connais qui feraient le moindre rivet, attention, hein, qui font de la BD comme ils font de la maquette.
C'est juste parce que c'est vrai que c'est difficile d'écrire un dessin. Quand on dit il dessine très bien, on pourrait penser que c'est il dessine de manière très réaliste. Or, c'est pas ça. C'est vrai que dessiner très bien, c'est pas faire quelque chose d'extrêmement ressemblant ou extrêmement. C'est vrai que souvent on se trompe dans la rhétorique de décrire la chose. Des gens qui dessinent de manière très réaliste, déjà, c'est ultra dur de que ce soit acceptable visuellement.
Ben oui.
Il y a très très peu des grands dessinateurs de réalistes. Il y a Giraud, moi je trouve que c'est le.
Giro,
le seul
Möbius,
qui est voilà Möbius, j'en vois pas d'autres aussi.
Mais c'est même pas du réalisme non plus, quoi. Moi je trouve que c'est vraiment des codes aussi, hein. Ce sont des codes. Attention, la bande dessinée c'est que des codes, hein. On est bien d'accord.
Nous interrompons, on fait une pause et on se retrouve dans un instant, toujours à la terrasse du Café Beaubourg, rue Saint-Martin, avec Émile Bravo et Riyad Satouf.
Frédéric Tadéhi en balade avec Riyad Satouf sur Europe 1.
Pendant les vacances, Frédéric Tadéhi revient avec ses meilleures balades et celle avec Riyad Satouf en fait partie. On écoute leur rencontre parisienne jusqu'à midi et demi.
Nous sommes au Café Beaubourg avec Riyad Satouf, l'auteur de l'Arabe du futur et des Cahiers d'Esther, de Pascal Brutal aussi, Émile Bravo, l'auteur des Nouvelles Aventures de Spirou, Un mauvais départ vient de paraître chez Dupuis. C'est vrai cette histoire, Riyad, qu'au départ vous vouliez faire de l'héroïque fantasy, de la science-fiction presque, et qu'avec votre nom à consonance arabe, aucun éditeur n'y croyait.
Alors c'est vrai, c'est difficile de savoir si c'est mon nom à consonance arabe ou mon absence de talent comme dessinateur d'héroïque fantasy. D'aucuns, si j'avais un peu trop d'orgueil, je dirais que c'est parce que j'avais un noir, bien sûr, qui ne faisait pas travailler, mais je pense que c'est aussi parce que j'étais pas très bon. Non, c'est vrai que je rêvais d'être un illustrateur de science-fiction, mais comme je le disais tout à l'heure, parce que le dessin, toute une partie de mon adolescence, avait été un échappatoire et il me permettait de m'évader, en fait. Donc je dessinais des scènes de bagarre dans des mondes parallèles pour oublier le monde réel qui n'était pas très reluisant. Et c'est vrai qu'à partir du moment où, en grandissant, en lisant des choses, en découvrant d'autres auteurs, je me suis rendu compte de ce que signifiait l'envie aussi de vouloir être un illustrateur d'Heroic Fantasy. Justement, parce que je refusais de voir comment était ma vie et comment était le monde réel. Et je me suis,
vous pensez qu'on fait de l'Heroic Fantasy parce qu'on ne veut pas voir ce qui nous entoure?
Vous avez vu George R. Martin? À mon avis, quand il se regarde dans la glace, il a envie de
George R. Martin, il faut rappeler que c'est
l'auteur de Game of Thrones. Non, mais en fait, c'est parce que j'aime trop l'Heroic Fantasy et la science-fiction. Et quand on aime trop quelque chose, il faut faire attention quand on veut y toucher, parce que j'ai presque une attitude trop fan, en fait, par rapport à ça. Donc
vous étiez un fan de Conan le Barbare, par exemple?
Oui, je lisais vraiment toutes sortes de choses.
C'est fou comme Conan le Barbare a marqué une génération. Johann Sfar en était fan aussi. Vous, Émile Bravo?
Non, pas vraiment, non.
Non, hein.
Émile, pas du tout, il était c'est la merde.
C'est bizarre, hein, tous ces types un peu freluqués.
Ah, c'est les muscles, tout ça.
Non, mais c'était aussi parce que Conan le Barbare, en fait, tout simplement, il passait souvent à la télé en France, en version française.
Ah, c'est les films, plus
c'est
que la bande dessinée.
Ah ouais, moi, c'est pas la BD, j'ai jamais lu les BD de Conan. C'était le film qui passait très souvent, et c'est vrai que ça, je pense que ça a marqué beaucoup de dessinateurs, parce que justement c'était un peu fantastique, c'était un peu mystérieux, il y avait ce personnage de Schwarzenegger qui est quand même unique, c'était marquant.
Et alors, Émile, quand est-ce que vous faites un film, vous? Parce que c'est maintenant tous les auteurs de bande dessinée font leurs films.
Oui, hein, c'est drôle.
Johann Sfar est devenu réalisateur, Mathieu Sapin sort son film, Riyad Satouf a eu le César du meilleur premier film à l'époque pour Les Beaux Gosses, puis il y a eu Jackie au Royaume des Films. C'était un échec, ça. Hein.
Complètement.
Et depuis, vous ne faites plus de films, d'ailleurs.
Bah, disons que comme mon premier film avait bien marché, c'est Les Beaux Gosses, j'ai eu plus de budget pour faire le deuxième, qui était Jackie au Royaume des Films. Ça a été un énorme échec. C'est après ce film, en fait, j'ai compté mes amis. Il y en avait un, il est à cette table aujourd'hui, c'est Émile, c'est le seul qui m'a rappelé. Et donc, je me suis mis à faire des BD et je me suis lancé dans l'Arabe du futur à ce moment-là.
Vous aviez déjà fait de la bande dessinée avant de réaliser des films.
Bien sûr, mais disons que je me suis remis à la bande dessinée à ce moment-là en me disant que je
par
me
suis concentré. En fait, par dépit.
Non, mais aussi pour me dire, ben voilà, j'ai voulu faire des films, ça n'a pas marché, je vais reprendre ce que j'ai.
J'ai entendu dire que vous étiez parmi les coproducteurs du Redoutable, le film de Michel Hazanavicius. Alors, vous avez tellement de fric que ça, Riyad Satouf.
Ouais, c'est ça, c'est
vous pouvez vous permettre de produire les films des autres.
C'est parce qu'en fait, on pense que quand on est producteur, on dans le comment dire, le
sens commun,
l'imaginaire commun, on pense que je vais signer un chèque de 20 milliards pour faire un film. Or, producteur, c'est absolument pas ça, c'est on fait des films avec l'argent des autres.
Oui, des télés en général.
Et en fait, moi, c'est vrai que sur le film Le Redoutable, j'ai absolument rien fait. Moi, je me suis associé avec Florence Gastaud et Michel Hazanavicius. On a fait une petite société de production pour produire nos films, si j'en refais un jour. Mais pour l'instant, j'ai rien fait. Moi, je suis pas du tout un producteur.
Donc, pas de film?
Non, mais je pense que c'est un autre métier.
Il a joué dans mes films. Ouais. Il a joué dans mes deux films.
Ouais, un excellent acteur.
Et il était bon réalisateur,
ouais,
sur le plateau?
Oui, moi, je trouve. Il apporte une ambiance, quoi. Il fait rire tout le monde, déjà. Et puis, c'est vraiment très décontracté. Et puis, on sent que les gens l'aiment bien, quoi. C'est clair. Ouais.
Bah, et puis on ne peut pas dire que les gens n'ont pas aimé Jackie au Royaume des Filles, puisqu'ils n'y sont pas allés.
Voilà.
Non, c'est vrai. Puis je crois qu'en plus, c'est un film extrêmement téléchargé illégalement. Je reçois souvent des messages de gens de pays improbables où ils me disent « Oh, I've seen your movie, Jackie in Woman Kingdom. Very funny, hein? Very funny movie. Very... » C'était très... Il y a un côté très...
C'est devenu, il faut dire que c'était un film qui racontait un pays où les garçons étaient à la place des filles et les filles à la place des garçons.
Exactement.
Hein. Un vieux truc qui vous obsède, hein, quand même, ça.
J'inversais les rapports de domination.
Ouais.
Mélanger les genres, quoi.
Voilà, et en fait, ça n'a pas été... Enfin, c'est vrai que personne n'est allé le voir.
Eh bien, merci Riyad Satouf de nous avoir emmenés en balade avec vous. Merci Émile Bravo. Je remercie également le musée de la chasse et de la nature, la bibliothèque du Centre Pompidou, le Café Beaubourg pour leur accueil. On se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que L'Arabe du futur, le tome 4, vient de sortir chez Alary et que Les nouvelles aventures de Spirou par Émile Bravo sortent chez Dupuis. Le premier album s'intitule Un mauvais départ. Et nous, on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Oui, à dimanche prochain, Frédéric Taddeï, on revivra votre balade avec Emmanuel Seigné et Dany. Alors, votre journée n'est bien sûr pas finie. Dans un instant, vous serez avec Sébastien Guyot pour votre journal de la mi-journée. Et puis, à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet. Isabelle qui a sélectionné pour l'été les éblouissantes, des interviews de femmes exceptionnelles. Cet après-midi, elle vous propose de revenir sur son entretien avec l'astronaute Claudie Aigneret. Alors, bonne fin de week-end avec Europe 1. Il est midi 27. Europe 1.